Alors, la nocivité de l'un et de l'autre.
Oui.
Alors, en plus de ça, les deux sont assez proches au point de vue chimie et circulation métabolique, que ce soit le potassium ou le césium. Les deux s'accumulent dans le muscle, le césium davantage dans le cœur, mais enfin, ce sont des nuances. Le fait est que le grand universel de la radioactivité naturelle, ce n'est pas l'uranium comme on le croit, mais c'est notre brave potassium, de la potasse agricole, parce que nous sommes tous poussière d'étoiles et dans la supernova qui nous a fabriqué notre système solaire, il y a création de potassium dont, autant que je me souvienne, un atome sur 12 000 de potassium est un atome radioactif avec une durée, je cite de mémoire, de 4 ou 5 milliards d'années, dont le potassium a une petite fraction encore d'atomes radioactifs de potassium 40 qu'on trouve partout. Et c'est cette universalité de la présence du potassium, si je sortais le spectromètre et si je prenais la radioactivité ici, on verrait très bien que ce qui domine, c'est le potassium que nous avons à peu près en quantité équivalente dans notre corps. Nous en avons 75 becquerels par kilo, c'est-à-dire notre corps reçoit la désintégration de 75 atomes de potassium 40 par seconde. On trouverait à peu près la même chose dans les agglos qui font ce mur, la même chose dans le sol. Il est très peu accumulé, il se trouve partout. Et cette discrétion et cette universalité en fait qu'il est peu dangereux parce qu'il offre la possibilité de l'accommodement génétique des mécanismes des réparations biologiques. Chacun sait que la radioactivité détruit le code génétique pour raison énergétique et chacun, chaque population, chaque individu a une capacité de réparation de ce code génétique qui est variable mais qui n'est pas parfaite. Et chaque fois qu'on augmente la dose de radioactivité, on augmente la probabilité de mauvaise réparation. Et il est admis par ce mécanisme-là maintenant que toute dose de radioactivité est nocive. Les petites doses le sont évidemment moins que les grandes. On estime que la radioactivité est dangereuse à tous les niveaux, aussi faibles soient-ils, les niveaux faibles l'étant moins que les niveaux forts, je me répète beaucoup, mais qu'on est dans un processus sans seuil, et on voit beaucoup de fables racontées là-dessus. Voilà quel est le consensus assez difficilement établi sur la radioactivité. Alors, effectivement, cette radioactivité naturelle présente partout n'a pas une grande dangerosité, puisque on y est en quelque sorte habitué depuis la nuit des temps. À présent, quand on sort de cette faible et universelle radioactivité naturelle, qu'elle soit due à tout ce qu'on voudra, à l'iode 131, qui a une courte période, mais qui a un comportement biologique extrêmement plus nocif que le césium lui-même, encore que Bandajewski dise des choses très dures sur le césium, parce que cet iode radioactif va se concentrer dans la thyroïde, qui s'avère un organisme extrêmement sensible. Et la grosse découverte de Tchernobyl au point de vue pathologie, c'est effectivement la sensibilité de la thyroïde humaine au dégagement d'iode. Alors, il faut savoir que dans la période initiale du nuage de Tchernobyl, il y avait de 10 à 15 fois plus d'iode radioactif que de césium 137. Ce qui fait que quand je mesure dans un sol la quantité de césium 137, je peux calculer combien il y avait d'iode qui a été abattu sur ce sol-là. Et je vous promets que c'est très impressionnant. Dans notre sud-est de la France, on arrive très facilement à 100 000, 500 000, 1 million de becquerels mètre carré d'iode 131 abattu. Si on juge de la dangerosité de cet iode 131 par exemple, pas notre IRSN qui est très peu fiable, mais le RPB, son équivalent anglais, Les Anglais disent à quelques dizaines de milliers de becquerels mètre carré, l'iode 131 est déjà dangereux pour les enfants. Vous avez quand même un mec de l'IRSN qui ose reconnaître que les enfants sont plus sensibles. Alors que les professeurs Pellerin n'a jamais reconnu que les enfants avaient une quelconque sensibilité spécifique. Et de toute façon, à 100 000 becquerels mètre carré, on est dans un danger généralisé pour les adultes. Il y a donc eu une dangerosité évidente du point de vue sanitaire des quantités d'iode reçues. Mais dans le nuage de Tchernobyl, il n'y avait pas que l'iode 131, j'ai beaucoup de documentation dessus, je pourrais vous montrer. Bon, il y avait aussi l'iode 132, beaucoup. Il y avait du strontium 90 qui se fixe sur les os des mômes et est un produit extrêmement leucémiant, etc., etc.
Oui. Tout à l'heure, vous disiez que le fait qu'on soit loin du lieu de la catastrophe ne changeait rien au taux de la radioactivité, qu'on pouvait avoir des taux très élevés et très acides.
Oui.
Du coup, comment vous situeriez la catastrophe de Fukushima par rapport à Tchernobyl? Peut-être plus loin, mais en intensité, c'est très violent.
Bon, là, on rentre dans des questions compliquées. En plus de ça, Tchernobyl a déposé au Japon, par endroit à cause de pluie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un nuage qui circule, ce qui est dangereux, c'est qu'il y ait le nuage, mais qu'il y ait la pluie qui le fasse descendre. Ça change tout, la pluie. La pluie abat la contamination au sol. Ceci dit, vous avez vu tout à l'heure que même les brouillards sont extrêmement dangereux parce qu'ils déposent sans laver la végétation, et c'est le cas par exemple dans le nord de la Corse, la Balagne où se trouve le Fauconnier, où de très nombreuses pathologies sont reconnues et où j'ai au niveau du sol des très faibles contaminations, parce que la contamination s'est posée par de la brume et du brouillard. Ça n'empêche que les produits alimentaires et les pâturages ont été très durablement contaminés. Par contre, à d'autres endroits où il a beaucoup plu, il y a beaucoup de contamination descendue dans le sol, mais les végétaux ont été relativement lavés. Par contre, après, les racines en ont remonté. Donc, j'aborde par là les nuances qu'il y a de comportement. Une contamination radioactive, c'est un phénomène, parmi d'autres, et nouveau dans le fonctionnement de la nature, mais qui n'est pas tout à fait simple. Vous le comprenez ?
Fukushima,
c'est un autre cas particulier. Tchernobyl, c'est un truc qui explose. L'explosion de Tchernobyl a fait monter le nuage radioactif à 9000 mètres. C'est un consensus, 9 ou 10 000 mètres. C'est-à-dire que toutes les couches atmosphériques qui ont des vents de directions différentes ont été dopées par la présence du nuage. Ce qui fait qu'il y a un nuage qui est parti par là, un autre qui est parti par là, un autre qui est parti par là. On est parti dans toutes les directions en montant très haut. Et cette dynamique qu'il fait monter très haut a la capacité de le disperser très loin. Tchernobyl, ça va vraiment loin. Puisque je vous dis, chez nous, à 2000 km, même au-delà, puisque les niveaux de contamination très élevés, on les a également depuis le nord de la Scandinavie jusqu'en Grèce, même en Turquie. Fukushima, la dynamique de la catastrophe n'est pas la même. L'explosion est beaucoup moins violente. Il n'y a du reste pas vraiment d'explosion, sinon un petit splouche d'hydrogène qui monte à quelques centaines de mètres, parce que les cœurs fondent sans exploser. Les trois cœurs ont fondu. Le lendemain, les cœurs avaient percé la gamelle, c'est-à-dire le réacteur était en train de s'enfoncer dans la terre. Alors qu'on vous a raconté que pendant 3 mois, on essayait de reprendre la situation en main. Je ne vois pas ce qu'il y avait à reprendre en main, étant donné que les cœurs sont percés à travers, et le quatrième réacteur avait les piscines, avec les combustibles en piscine qui chauffaient, qui avaient envie de faire la même chose. Donc, ça n'est pas la même dynamique. Il n'est pas monté le nuage de Fukushima dans les hautes couches. Ceci dit, c'est baladé de façon extrêmement vicieuse dans les basses couches. Et les manipulations des mesures à Fukushima sont peut-être pires qu'à Tchernobyl. C'est-à-dire, on ne sait rien, on découvre que dans les rues de Tokyo, il y a des endroits où il ne faut pas aller, on ne sait pas comment ça s'est contaminé, etc. On est quand même à 200 km ou 250 km. Il y a à peu près 54 000 compteurs Geiger envoyés aux militants et aux citoyens japonais par la CRIRAD et par Greenpeace, 50 000 détecteurs qui sont bloqués en douane à l'aéroport parce qu'on ne veut pas que les citoyens aient la capacité de savoir. On en est encore là au Japon. Je vous signale quand même que si on sait un peu quelque chose sur les contaminations, et moi je sais pas un truc d'histoire, mais ce qu'on vous montre là, on espère faire, on en a parlé, un acte de pédagogie citoyenne pour montrer comment ça se passe, une contamination, et comment éventuellement elle peut être gérée avec les méfiances vis-à-vis des institutions. Mais si on sait un peu quelque chose, c'est grâce au travail citoyen qui a été fait avec la CRIRAD. La CRIRAD a été créée 15 jours après Tchernobyl parce que le mari de Michel Rivasi, qui était un pilote de ligne sur UTA, a circulé à travers toute la plaine. En plus de ça, je crois qu'il était polytechnicien, donc très au courant. Il avait des contacts scientifiques dans le monde entier. On l'avait son avion partout. Il avait des informations partout. Le seul pays qui n'avait pas de problème, c'était la France. Jusqu'au jour où ils ont dit, parce qu'ils vivaient dans une petite maison retirée de la Drôme, ils ont pris de l'eau de la citerne, ils ont pris quelques trucs, et ils ont été voir un vieux professeur qui avait un spectromètre à l'université de Lyon. Quand ils ont posé le sac, une analyse rapide sur le spectromètre, il y a des pics d'irradiation de partout qui montaient. Et le vieux professeur a dit à son laborantin: va me chercher un sac dans la pelouse de l'université. Ils ont ramené un sac dans la pelouse de l'université. C'était pareil. Donc, ils trouvaient les retombées de Tchernobyl partout, alors que le discours officiel, vous l'avez entendu.
Et tu peux montrer la couverture du livre, parce que toi, tu as fait énormément de relevés, de mesures, et tu as établi
Ça?
un atlas qui donne presque canton par canton, en particulier ici, les contaminations. Et si vous voulez ce livre, il est en vente.
Il y a aussi une très grosse différence entre Tchernobyl et Fukushima. Tchernobyl, c'était du graphite gaz, donc il y a eu un feu, donc c'était très. Et là, à Fukushima, il y a du plutonium.
C'est pas du graphite gaz. Hein.
À Tchernobyl, si, c'était une filière graphite gaz.
Non, c'est un bouilleur graphite. C'est. Bon, un mot
Mais c'est
pour.
surtout, je voulais dire, il y a du plutonium à Fukushima qui n'existait pas à Tchernobyl.
Il y a énormément de plutonium à Tchernobyl. C'est un énorme problème à la présence du plutonium. Sauf que le plutonium, on ne peut pas le mesurer très très facilement. Alors, je termine la partie que je fais de l'Atlas. Je laisse la parole. Je discute avec le radioécologiste de la centrale de Tchernobyl en l'an 2000. J'avais deux questions à lui poser sur l'eau et sur le plutonium, justement. Il me dit, le plutonium, il y en a vraiment énormément, mais ce sont des particules grosses, ils restent à la surface du sol, pour nous c'est un moindre mal. Ce qui les inquiète beaucoup, c'est les isotopes qui descendent et qui infectent toute la tranche d'eau et qui rendent finalement de grandes étendues invivables parce qu'on n'a plus d'eau potable, quoi. Voilà. Un des aspects, mais je te jure qu'il y a beaucoup de plutonium. Ceci dit, à Fukushima, il y a un des réacteurs, alors là je te rejoins, qui a beaucoup pollué un plutonium parce qu'il était chargé en MOX par Areva. Il y a les mecs d'Areva là-bas, ils auraient pour bosser. Dès que ça a pété, ils sont taillés. Mais il y a un des réacteurs qui est chargé en MOX, c'est-à-dire le combustible, c'est de l'uranium plus du plutonium qu'on met dedans. Mais le fonctionnement normal d'un réacteur transforme énormément d'uranium-238 en plutonium. Ça, c'est le fonctionnement. Même quand on ne met pas, un réacteur en produit beaucoup.
Tout à l'heure, vous avez dit que l'Eotosac était beaucoup plus contaminé que la Corse. Est-ce qu'aujourd'hui, en
Beaucoup plus,
2011,
plus, oui.
ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2011, vous pouvez me donner des conseils, par exemple, pour des gens qui ont des jardins ou qui mangent du fromage de chèvre, est-ce qu'il y a encore des précautions à prendre?
Ah oui, il y a énormément de précautions à prendre, mais c'était en 1986 qu'il fallait.
Oui, non, mais aujourd'hui, maintenant c'est trop tard, c'est derrière. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des précautions à prendre ou on peut.
Bon, maintenant, on mange les derniers becquerels de césium 137 qui traînent dans les champignons, le gibier, quelques-uns dans le jardin. Je suis un jardinier très bio et je revendique d'avoir des rares jardins en teneur en césium 137 absolument bien contrôlés. Mais je pense que tout le monde en est là. Par
Non,
contre, quelque chose qui est.
Ils sont pas contrôlés.
Une information très grave pour les Hautes-Alpes. Bon, vous avez vu ce film, il est fait toute la partie chaude est faite parce que la justice a perquisitionné, vous avez vu, c'est du scoop, hein, à peu près tout, c'est des notes qui n'étaient pas faites pour les citoyens. Donc pour avoir de l'information, il a fallu que la justice, la juge Bertella, ait perquisitionné de façon bravache. Hein. Matignon a été perquisitionné par un commando de 72 gendarmes. Il est allé fort, mais elle n'a pas osé perquisitionner l'IPSN qui sait tout. L'IPSN, un cadarache pas loin d'ici, scotchait les capots de voiture avec du scotch 20-20 cm et heure par heure ramassait la contamination qui tombait. Autant vous dire qu'ils savent tout, mais n'ont jamais rien dit, puisque vous avez vu, ils acceptent de se taire. Dans les saisies judiciaires, j'ai trouvé des plantes aromatiques et du fromage d'un propriétaire de serre qui sont très contaminés, notamment en iode 131. Et ça vient de la DGCCRF, la répression des fraudes. Et beaucoup plus grave que ça, c'est que la première publication qu'on a faite, c'était au printemps 97 avec la CRIRAD, c'était Mercantour et Crène, un niveau très élevé de contamination. Alors, sur ces entrefaites, et dans le bruit et la fureur que ça a provoqué, j'ai appris que le parc des écrans, de sa propre initiative, avait prélevé des échantillons à cette période de Tchernobyl, fin mai, début juin. Quand j'ai voulu savoir ce qui était devenu ces échantillons, on m'a dit, on n'a pas eu les résultats, on ne sait plus ce qu'on a fait, on a perdu la mémoire, on a perdu les protocoles dans le déménagement. Bon, voilà, institutionnellement, c'était le verrou, y compris du parc national des écrans, enfin de sa direction. Par contre, les gens de la base m'ont dit ce qu'ils avaient fait, m'ont permis de reconstituer un document de ce qu'avait échantillonné le parc des écrans, et ça avait été fait remarquablement, en la personne du directeur scientifique de l'époque et d'un de ses acolytes. Ils avaient beaucoup récolté de mousse sur toutes les étendues des écrans, ça couvre donc beaucoup de Hautes-Alpes. Ils avaient tué des chamois pour prendre différents organes des chamois, la chaîne alimentaire qui est sauvage qui était à leur disposition, c'était particulièrement astucieux, ils avaient fait des pêches électriques de truites, ils avaient pris de l'eau de pluie, ils avaient agi scientifiquement de façon extrêmement compétente. Et, soi-disant, il n'avait jamais eu le retour des résultats que le directeur scientifique avait fait, je crois, 2 ou 3 voyages apportés à Calarache. Alors, rien de ce document, et moi trouvant avec la CRIRAD en 96 un niveau énorme de contamination dans le sol, dans ce périmètre, j'ai interpellé de façon assez tonitruante une 15 ou 18 ministres, et il se trouve que Calarache a été sommé 11 ans après, de sortir les résultats de ces échantillons. Ces échantillons sont sortis le 15 juillet 97, 11 ans, le lendemain du 14 juillet. Et ces échantillons sortent de l'IPSN et sont truandés. Les résultats sont truandés. Ils sont truandés de plusieurs façons, il n'y a pas de date d'analyse. Si sur un événement radioactif dont le chronomètre, vous savez, évolue très rapidement à cause des différents isotopes qui disparaissent, etc., la CRIRAD faisait ça, elle passerait au tribunal de la science immédiatement. Là, pas de date. En plus de ça, tous les échantillons de la chaîne alimentaire sont supprimés. Ce qui fait qu'ils ont dit, les mousses et lichens, certes, sont très contaminés, mais on ne mange pas de mousse et de lichens, et on peut dire que la chaîne alimentaire n'est pas concernée. Elle n'est pas concernée. Ils ont foutu les échantillons en l'air. Et un autre truc, c'est qu'ils ont supprimé la colonne iode-131, parce qu'ils mettent d'énormes quantités d'un autre isotope que l'iode-131, parce qu'il y avait beaucoup de choses dans le nuage de Tchernobyl. Pour être précis, c'est le ruthénium-103, qui a une période aussi courte que l'iode, et qui se trouve en moins grande quantité. Alors quand on trouve analytiquement beaucoup de ruthénium-103, j'ai fait avouer dans une réunion comme ici avec l'IPSN, à la mairie d'Aix-en-Provence, qu'on ne pouvait pas trouver de ruthénium-103 dans Tchernobyl, sans trouver beaucoup d'iode-131. C'est eux qui ont fait l'aveu, mais c'est eux qui ont fait l'analyse. Donc vous voyez, les résultats sont biaisés. Comme je vous disais, quand on a des paramètres, on peut retrouver les autres. Je vous garantis que sur toute la surface des échantillonnages du parc des écrans, dont il y a un échantillon qui est à 300 mètres de chez nous, à Chabot, dans le Champsaur, tout ce qui était végétation sur le sol, c'était du déchet radioactif à plus de 100-200 000 becquerels par kilo de végétation.
pleuvait toute la journée quand on y avait passé. Il pleuvait.
Voilà où on en est. Donc les preuves sont très lourdes pour les Hautes-Alpes. Alors je sais qu'on va revenir sur le terrain un petit peu des pathologies. Vous avez vu le sujet qui est amorcé ici. Alors le discours français est remarquable de désinformation. D'abord, tout est organisé pour qu'il n'y ait pas de relevé, qu'il n'y ait pas d'études épidémiologiques, puisque vous avez appris que l'Assemblée de Corse, sur la base de notre travail, a voté à l'unanimité, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'exigence d'une enquête épidémiologique. Et cela pète. Dans le reste de la France, chez nous compris, plus contaminé que la Corse, il ne se passe rien. Le discours vis-à-vis des pathologies thyroïdiennes a été le suivant vis-à-vis de l'institution médicale qui a imposé aux médecins de ne pas la ramener là-dessus, de ne prendre aucune initiative. Alors jusqu'en 1995, le discours a été « on n'observe rien de nouveau, pas d'augmentation significative, etc. » De 1995 à 2000, le discours a été « certes, on observe des augmentations, mais c'est parce qu'on travaille mieux, on dépiste mieux, etc. Bon, la médecine fait des progrès. Et depuis 2000, c'est une grosse augmentation est reconnue, mais avec un argument vicieux qui contredit ce qui se disait avant. Mais on ne peut pas accuser de Tchernobyl parce que l'augmentation démarre dès les années 75. Donc vous ne pouvez pas avoir un effet qui précède une cause. C'est pour ça qu'ils disent que ça ne peut pas être Tchernobyl, sauf qu'avant Tchernobyl, vous avez les contaminations dues aux essais aériens. Il y avait la CRAD, on a trouvé que les essais aériens avaient provoqué des retombées très très importantes. Notamment, il y a beaucoup de plutonium dans les retombées des essais aériens. Il y a beaucoup de césium, il y avait pas mal d'iode. Les Américains ont fait des études épidémiologiques dues aux retombées des essais aériens et ça commet beaucoup de dégâts avec des pathologies thyroïdiennes bien identifiées. Donc il est normal que le maximum des retombées des essais aériens, qu'ils soient français, russes, américains surtout, russes-américains surtout, aient provoqué, vers le début des années 70, les pathologies initiées par les retombées, le maximum des retombées militaires, c'est 62. Et Tchernobyl, ça explose plus rapidement, parce que la contamination est instantanément plus violente dans les années, dès le début des années 90. Une information qui a été très difficile à obtenir par les malades de la thyroïde, l'association des malades de thyroïde, c'est que vous avez un médicament pratiquement unique qui soigne la plupart, je parle sur la responsabilité des médecins, des pathologies thyroïdiennes, c'est le lévothyrox. Et donc, les malades thyroïdes voulaient connaître la statistique de cette consommation de lévothyrox, un produit unique produit par un laboratoire unique, Merck. Et donc, c'est une statistique facile à obtenir. Ça a été 4 ou 5 ans de secret défense et il a fallu que la juge menace une perquisition et le laboratoire a fini par lâcher l'information. Puis ensuite, la comptabilité pharmaceutique. Alors la surprise, c'est que le lévothyrox est le médicament le plus consommé en France, après les médicaments de confort, genre Doliprane. Et j'ai les courbes là dans une documentation, je vous montrerai, c'est des exponentielles avec des dosages, à mesure que le temps passe, des dosages de plus en plus élevés, depuis les 10-15 mg, maintenant j'ai vu qu'on est à 180-200 mg. Bon, voilà, donc une explosion qui est signalée par la consommation médicamenteuse, avec toujours un refus absolument de savoir, puisque vous l'avez appris, le procès qui avait été intenté par les malades thyroïdes, et pour une autre raison par la CRAD, a été l'objet, par le procureur et sur ordre, d'un non-lieu. Je vais dire un petit mot de plus sur la thyroïde, et sur les pathologies thyroïdiennes, dont je parle totalement hors compétence, mais j'ai tellement vécu de choses affreuses, puisque les malades thyroïdes m'ont pris comme conseiller scientifique, on a roulé à travers toute la France un petit peu avec eux, et j'ai passé des soirées assez dures, avec leurs médecins aussi, j'ai beaucoup appris, et je vous signale, bon, ces pathologies thyroïdiennes, assez nombreuses, puisque chaque famille, au sens élargi, en a des cas, Et normalement, en l'absence de toute manifestation pouvant induire ces pathologies thyroïdiennes, on va dire en situation saine, les pathologies thyroïdiennes graves chez les jeunes sont, j'ai appris, extrêmement rares, avec une occurrence de 1 pour 2 à 3 millions. Bon. Autrement dit, dans un département comme les Hautes-Alpes, une pathologie thyroïdienne grave chez un jeune, disons 15-35 ans, on devrait en voir une tous les 10 ans. Alors on est loin du compte, on en trouve chez ces jeunes, à peu près dans toutes les familles. Donc j'insiste sur ce côté absolument pathologisant. Je ne dirais pas que toutes les pathologies thyroïdiennes sont dues à Tchernobyl, mais il y a sa part. Pour le savoir, il faudrait faire de la science. La science s'appelle l'épidémiologie. Il y a des règles à respecter et c'est une science qui est interdite institutionnellement. Et donc, je vous renvoie à la Corse. Bon, alors, le rôle de l'AEIA, vous m'amenez sur le terrain. Ce mois de mars encore, nous étions non sans difficulté dans les zones très contaminées de Tchernobyl et de Russie. Parce que vous avez tous appris, si je vous montrais la carte, je vais quand même essayer un petit peu, parce que ça, pour ceux qui sont intéressés, voilà, les zones très contaminées autour de Tchernobyl, c'est ça. Alors la zone interdite est de 30 km, la voilà, vous devinez à peu près, et vous voyez les étendues de couleur très foncée partout, là, il vit, là, la population a été évacuée, là, c'est grand comme l'Autriche, c'est plus grand que la Suisse. Il y a 8 à 9 millions de personnes qui vivent dans des niveaux de contamination qui sont les mêmes que ceux de la zone interne. Puis on se pose la question de teneur en plutonium de ces zones. Bon, ça c'est compliqué. En 86, lors de l'accident, c'est notre cher professeur Pellerin qui était responsable auprès de la Commission internationale de radioprotection, la CIPR, qui est allé à Tchernobyl même pour dire « Non, faut pas évacuer, c'est pas la peine, c'est impossible. » Donc, les institutions françaises qui ont organisé le mensonge chez nous sont allées l'exporter là-bas. Et alors que les réglementations internationales disaient dans une vie humaine, on ne doit pas dépasser une dosimétrie cumulée de 35 REM. Les responsables, il y avait un Chilien, il y avait Pellerin, sont arrivés là-bas en disant non, les 35 REM, on s'assoit dessus, c'est une règlement internationale, maintenant ça sera déjà 75 REM. On passe de 35 à 75, le doigt mouillé. Alors bon, la CIPR, ce n'est pas la EIA, mais vous savez qu'il y a une consanguinité extrêmement élevée entre les institutions qui gèrent le nucléaire de façon mondiale. Effectivement, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AEIA, c'est le sommet de la pyramide. Vous savez ou pas que dans l'ONU, il y a un certain nombre d'institutions techniques périphériques, en dessous du politique, qui gèrent des aspects techniques, dit techniques, comme l'humanitaire, comme la FAO qui gère l'alimentation, comme celle qui gère les droits humains, comme, bon, il y en a une qui gère les affaires atomiques du monde, mais alors que toutes les institutions font partie d'un staff technique qui est géré par l'administration onusienne, l'AEIA, curieusement, n'est pas gérée par l'administration de l'ONU, mais est gérée par le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire les 5 pays majeurs dotés de la force nucléaire. C'est très curieux, mais c'est comme ça. Autrement dit, l'AEIA, l'Agence de promotion du nucléaire civil, est sous la coupe politiquement et administrativement directe des 5 pays qui sont bardés des grandes forces nucléaires militaires. C'est déjà une des raisons parmi d'autres pour lesquelles je refuse la distinction civile et militaire, vous l'aurez compris. Alors c'est effectivement l'AEIA qui est le chef d'orchestre de l'idéologie nucléaire dans le monde, puisqu'en août 86, donc un trimestre après Tchernobyl, dans un congrès à Vienne, au siège de l'AEIA, le directeur adjoint Rosen, de la UIA en présence du directeur de la UIA, qui était Hans Blix, bien connu, a dit, texto devant des journalistes, un accident comme Tchernobyl, même tous les ans, ne serait qu'un inconvénient qui ne devrait pas trop déranger le développement de l'industrie nucléaire. Donc c'est pour ça que je suis obligé de faire un effort de mémoire pour m'en tenir à des faits précis, je ne peux pas tenir de généralité. Autrement, l'AEIA est le chef d'orchestre. Alors je vois venir votre question. Quelle est la nature de la relation AEIA-OMS? Alors, vis-à-vis de Tchernobyl, on s'est aperçu que l'Organisation mondiale de la santé avait une attitude de totale lâcheté, d'inféodation, et ne s'était jamais exprimé là-dessus. Et des journalistes ont fait un travail un peu d'investigation et obtenu, notamment au congrès de Kiev de 1995, ou peut-être un peu plus tard, l'aveu d'un ancien directeur de l'OMS, que pour ce qui est du danger du nucléaire, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est sous la coupe de l'AEIA, par un accord secret qui date de 59. Autrement dit, nos institutions sanitaires mondiales, OMS, n'ont pas le droit de s'exprimer sans l'aval de l'Agence internationale de la promotion du nucléaire. J'insistais que on voit nos institutions sanitaires croupions de tout un tas de ministères, au moins en cinquième position d'après ce que j'ai pu déduire du film, mais on voit que cette organisation est planétaire, à travers, et je pense que c'était le sens de votre question. Donc je rends hommage aux militants qui, depuis maintenant 4 ans et quelques mois, tiennent un piquet militant demandant l'indépendance sur les questions nucléaires de l'Organisation mondiale de la santé et qu'elle sorte de cet accord sordide qui met l'Organisation mondiale de notre santé sous la coupe de la promotion du nucléaire. Ai-je répondu ? D'abord, l'accident. Dans un réacteur nucléaire en fonctionnement depuis quelques semaines ou quelques mois, tout le monde est d'accord, il y a une quantité de radioactivité qui ne va rien vous dire, mais qu'on l'a définie en vieille mesure pour les grandes valeurs, 15 milliards de curies. Cherchez pas à savoir ce que c'est une curie, mais je vous dis que la limite de la zone interdite de Tchernobyl, c'est 15 curies au kilomètre carré. Voilà la limite de radioactivité qui en fait une zone interdite. 15 curies. Comme il y a 15 milliards de curies dans un réacteur nucléaire, on peut donc, si on répand cette radioactivité uniformément, transformer 1 milliard de kilomètres carrés en zone interdite. D'accord ? Vous me suivez ? C'est ça. Sauf que la surface de notre planète entière, c'est 500 millions de kilomètres carrés. Donc on pourrait mettre deux couches avec un seul réacteur. On peut faire deux fois les deux. Donc, tout le monde, ça au début, on a dit l'accident nucléaire majeur qui consiste à répandre le contenu du réacteur dans la nature est absolument intolérable. Donc, pour développer l'énergie nucléaire, il faut se rendre, amener ce risque à une valeur où il est nul. Alors, il y a un fameux rapport du calcul du risque de l'explosion d'un réacteur nucléaire. Ça s'appelle le rapport Rasmussen, il doit être d'octobre 1975. C'est un rapport mondial, CR, qui a mêlé la vie à tout le monde. Un réacteur nucléaire avait la probabilité d'une explosion de une fois tous les 35 000 ans. C'est peu. 35 000 ans, c'est long, comme disaient les plaisantins, surtout vers la fin. Bon, donc c'était une probabilité relativement nulle. Et puis il y a eu un pépin grave, il y a eu Three Mile Island, ils ont fondu le cœur, ça n'a pas trop pété. Mais bon, il y a eu quand même des milliers de gens qui se sont échappés. Il y a eu Tchernobyl, il y a Fukushima, et maintenant le discours a changé. Figurez-vous que notre directeur de l'IRSN, Repussard, vient de dire « Oui, mais on constate effectivement que la probabilité de l'accident grave, c'est-à-dire niveau 7 avec Fukushima, c'est une fois tous les 10 à 20 ans. » Alors avant c'était 35 000 ans, on est passé à 10 à 20 ans, cherchez l'erreur. Alors donc, l'accident nucléaire grave n'est plus de l'ordre de l'impossible pour accepter le nucléaire, mais simplement le nucléaire était là, maintenant il faut l'accepter avec une probabilité de risque tous les 10 à 20 ans. Donc on s'y habitue. Alors je vous signale, j'en ai parlé de façon tout à fait évasive de cet après-midi. Alors, ce n'est pas par hasard que les décrets qu'on appelle les décrets scélérats, secret défense, sont publiés en septembre 2003, parce qu'on a sorti donc un truc qui a quand même bousculé, parce que l'Atlas, on ne va pas trop se publier, grâce au courageux éditeur Yves Michel, parce que je vous signale que dans le pays France, il y a trois mots magiques si vous voulez publier un bouquin et être sûr de ne pas le faire. Vous parlez radioactif, atomique, nucléaire. Avec ça, si vous en parlez négativement, vous avez peu de chances de vous en sortir. Et il y a beaucoup de manuscrits qui ont disparu bizarrement. Donc on a sorti un état des contaminations qui a amené un procès contre l'État, même si l'État s'en est sorti par ordre au procureur, vous avez entendu le truc. Il y a eu quand même un peu de désordre institutionnel durable, puisque c'est un vieux truc, 25 ans, vous voyez, ça dure encore. Et il y a des décrets qui sont parus en septembre 2003, des décrets assez compliqués, et dont les attendus finaux sont extrêmement remarquables. Je les résume. Il y a des règles de radioprotection qui sont faites, on ne doit pas dépasser tant de becquerels, ceci, cela, ça s'appelle les règles de radioprotection faites pour protéger la population. En gros, ces règles de radioprotection s'appliquent tant qu'il ne se passe rien ou pas grand-chose. Si jamais il se passe quelque chose comme un accident grave, ils appellent l'accident grave l'incident hors dimensionnement. Ah, savoir ce que ça veut dire. Bon. Un incident hors dimensionnement, c'est-à-dire un peu tout à péter, quoi, hein. Alors là, l'acquisition des mesures se fera de façon militaire dans le cadre du secret défense. Personne n'aura le droit de la ramener. La divulgation des mesures, c'est-à-dire l'information, se fera de façon militaire dans le cadre du secret défense. Et les mesures à prendre, c'est-à-dire les ordres d'évacuation de la population, seront également gérées de façon militaire sans avoir à y rejoindre. C'est-à-dire que Nos décrets secret défense de 2003 instituent quelque part le coup d'État atomique en France. La CRIRAD est la seule à l'incendier, mais vous savez, pour passer d'informations. Voilà. Les Suédois ont eu un blast électrique, avec, c'est-à-dire tout le réseau qui a disjoncté, électrique, y compris ce qui alimentait leur propre centrale, tout s'est arrêté et ils ont eu énormément de mal, notamment sur un réacteur. Ils ne l'avouent pas, mais ils l'ont sauvé. Ils ont pompé de l'eau pour le refroidir avec des pompes à main.
Ce film, là, il a été diffusé où et quand, et où il n'a pas été diffusé?
À l'histoire du film, je ne sais pas trop en parler parce que. Bon, c'est sûr que c'est un film qui est fait courageusement par Chattard. Alors, ce réalisateur est un mec un peu particulier, qui ne s'en fout de sa carrière. Et quand on lui dit que c'est dangereux, le nucléaire, ça l'amuse. Il finit par avoir ses entrées à l'IPSN. Enfin, bon. Bon, il y a le courage du réalisateur de se frotter à ça. Il y a la bonne information, puisque vous le voyez, il a eu. C'est pas très commode, les sorties judiciaires, c'est dur à gérer. Il y a eu le dénommé Sanguinetti qu'il a absolument voulu pour la Corse. C'est un acte de courage de FR3 Corse. Et ceci dit, ça a été très dur. Je ne veux pas rentrer dans les petites histoires, mais Chattard avait terminé le film. Il a dû mettre 2 ans ou 1 an et demi à le faire, au moins. Et le film était programmé à la télévision pour le surlendemain, que son contrat pour faire le film n'était pas signé. Et j'ai été à France 3, à Ajaccio avec lui, et la négociation a duré toute une journée. Et le matin, on avait tourné les films de lancement publicitaire, Et à 5 heures du soir, l'administration de l'FR3 n'avait toujours pas signé le contrat. Parce qu'il y avait des ordres d'en haut, il ne fallait pas que ce film sorte. Chattard l'avait fait sur ses fonds propres. Hein. Il y a beaucoup de sous pour les images d'archives. C'est de l'ordre de 1000 euros la minute, les images d'archives, etc. Et voilà dans les conditions où s'est passé le film. À 5 heures de l'après-midi, Chattard a dit « Je fais tomber le couperet. Maintenant, vous déprogrammez le film que vous avez programmé, vous allez perdre de la gueule. » Et ils ont fini par signer. Quoi. Enfin, voilà, c'est complètement fait à l'arraché. Il est passé 4 ou 5 fois en Corse. Et l'opinion corse le redemande. Ça a bougé sociologiquement, politiquement, puisque l'Assemblée de Corse en a été émue pour exiger, c'est ce film qui l'a complètement provoqué. Du reste, dans le noyau dur que l'Assemblée de Corse s'est nommée pour la guider, pour avoir une étude épidémiologique qui écarte les services officiels, qui foutent dehors par la porte, qui rentrent par la toiture, c'est incroyable pour magouiller le truc. Dans le groupe dur, vous avez Chattard qui a fait le film, vous avez le docteur Fauconnier que vous avez vu, qui a énormément de documents d'archives qui prouvent la dangerosité et les pathologies. Vous avez le docteur Gabrielli et vous avez une quatrième personne qui est une personne élue de l'Assemblée de Corse. Mais voilà le noyau dur qui porte la demande de vérité en Corse.
Il n'a jamais été diffusé au niveau national.
Alors, ce film est monté à FR3 à Marseille avec la promesse, cochon qui s'en dédie, qu'il va être diffusé en France. C'est pour ça qu'il est monté par FR3 à Marseille. Qui voulait en assurer la diffusion en France. Du reste, quand vous écoutez les voix, ce film a une spécificité, c'est que ce film, pour montrer qu'il est soutenu par FR3, vous avez toutes les voix de doublage qui sont des voix différentes assez célèbres de FR3. Vous entendez toutes les speakerines habituelles, tous les speakers habituels de FR3, si vous avez l'oreille. C'est une façon où le personnel de FR3 a été motivé quelque part pour soutenir ce film, mais le couperet est tombé, le film passera en Corse, ne traversera pas. Alors régulièrement, il y a des remugles, il va passer en France.
Juste pour info, pardon. Donc, il nous a très bien expliqué ce qui se passait quand il y a un accident nucléaire, disons, majeur. Alors, moi, je voudrais donner un témoignage sur ce qui se passe quand il n'y a pas d'accident. Parce que Électricité de France a des ingénieurs et que ces ingénieurs travaillent sur la sécurité et enfin notamment surtout sur la question délicate qui est la question du vieillissement des organes. C'est-à-dire jusqu'où peut-on faire fonctionner, entre guillemets, selon les règles d'EDF ou Framatome, bon, c'est assez compliqué, jusqu'où peut-on le faire fonctionner. Donc j'ai pu constater, et puis bon, j'ai discuté avec des collègues du l'IRSN et j'ai discuté avec d'autres collègues par exemple, une étude est faite bon, sur un organe très particulier. C'est une étude à caractère académique. Elle est faite soigneusement, très correctement. Les scientifiques font leur métier exactement comme les gens qu'on a vus tout à l'heure qui font leur métier. Alors après, ce qui se passe, c'est que ces études partent dans les poubelles parce qu'il y a un système d'organisation à EDF, mais ça se retrouve aussi dans les grandes industries, qui est tel que la communication ne passe pas. Donc c'est comme ça que la même étude, on peut leur demander 5 ans après ou 10 ans après ou 15 ans après. Moi, j'ai été sollicité 4 fois pour la même étude, exactement dans les mêmes termes. Alors, ça tient aussi, je le sais, et puis d'autres collègues aussi, parce que nous autres scientifiques, nous discutons dans les congrès, et nous savons les uns et les autres ce que nous faisons. Donc, ça tient une partie à ce que les services sont extrêmement cloisonnés. Donc, il n'y a pas de communication. Ça tient aussi au fait que quand on veut de l'avancement dans un service, il faut devenir chef de service. C'est-à-dire qu'il faut attaquer de plus en plus la bureaucratie. Donc un scientifique, s'il veut avoir de l'avancement, il est foutu pour la science. Bon. Donc ça existe dans certains endroits. Et enfin, donc
il n'y aurait de progrès possible que s'il y avait une véritable coordination, si les responsables n'étaient pas incompétents ou arrivaient grâce à leur niveau des compétences, ils disent des conneries scientifiques, ça on peut les prendre en flagrant délit. Et donc la seule façon, j'allais dire, de faire progresser, bon, s'il le faut, mais enfin en tout cas c'est notre métier, la seule façon de faire progresser, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une transparence parfaite au niveau scientifique. Une transparence et une communication. Donc cette transparence n'existe pas, et bon, donc en partie on en revient au fait que c'est une concurrence entre différents lobbies.
Tu me confirmes qu'en matière atomique, la transparence, j'ai constaté que c'était un concept extrêmement sélectif à but au pacifiant.
Exactement.
Tu as bien fait, mais d'accord.
Oui. Juste pour un jour, par rapport à la question de Michel tout à l'heure, le film n'est pas passé, mais il est passé à la radio. Il est passé à France Inter, dimanche
dernier,
le 9.
Exact.
À une perception pour l'interview.
Ils ont pris ce film comme leitmotiv de Meux. Et jusqu'à passer la bande son pendant des longues secondes. J'ai beaucoup de mal. Ça fait 4 fois, je crois, qu'on va dans les zones très très étendues, très contaminées, d'Ukraine. L'Ukraine, c'est pas le pire. La Biélorussie, c'est bien pire. Et la Russie, encore peut-être pire. Et c'est vrai que quand on voit, qu'on discute avec les Toubibs, bon, on en est au point où on est invité avec les enfants de Tchernobyl alsaciens dans une ville russe, Novosibkov, qui est grande comme Gap, qui a 50 000 habitants, qui n'en a plus que 40 000. Et on en est actuellement à payer la rénovation de la clinique pédiatrique parce qu'il y a deux toubibs qui se battent comme deux héros bravaches au milieu de ce désastre sanitaire, institutionnel, mafieux, tout ce que vous voudrez, et qu'on essaye, cette année, on vient de leur filer 110 000 euros pour faire des réflexions et un don. On a leur a apporté 47 000 euros d'un généreux laboratoire alsacien pour une analyse instantanée d'analyse sanguine, un appareil japonais avec 5 ans de fourniture. Enfin voilà, quoi, c'est une zone désastreuse. Vous l'avez un petit peu aperçu parce que Chattard a voulu en dire deux mots. Mais ce n'est pas un hasard que derrière une grande catastrophe atomique, vous avez une grande crise. Comment il s'appelait le président Gorbatchev a assez dit que Tchernobyl avait été l'estocade de l'URSS. Bon, ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure avec vos rapports, vos questions sur l'AEIA. Le rapport officiel de l'AEIA qui impose à l'OMS de le répéter, c'est que Tchernobyl, c'est 52 morts et 4000 cancers de la thyroïde facilement soignables. C'est un niveau de désinformation, d'une arrogance incroyable quand on voit les cimetières qui se trimballent dans les années, à la fin des années 86, 87, 88, dans ces régions-là. Si bien qu'à titre de restitution de l'information, et moi j'en ai parlé tout à l'heure, je suis assez effondré de voir que les institutions scientifiques françaises, sinon tous les scientifiques, mais les institutions se sont couchées devant. Il y avait Josua qui parlait de la désaffection des jeunes vis-à-vis de la science. Il y a un réel rôle de compromission des institutions scientifiques devant l'oukase administratif du mensonge. Là, il y a un véritable problème que je ne suis pas du tout capable d'assumer ni de développer. Je ne fais que le constater brutalement. C'est l'AUIA qui impose ce scandale-là pour restituer un peu d'informations. Les scientifiques, les premiers qui ont craqué, alors que notre académie de médecine, c'est les pires que tout. Alors là, je pourrais vous en raconter. Je raconte juste une petite pour la nuit. Juste après la publication de notre rapport, vers 2002-2003, il sort une étude des académiciens, signée par des académiciens des sciences, enfin bon, la bande à Tubiana, les mecs qui ont écrit le bouquin Toxique nucléaire, vendu chez Masson, 85 euros, enfin bon, l'élite scientifique française du nucléaire, ils écrivent un article qui est bizarrement diffusé à titre d'encart publicitaire dans certains journaux, comme quoi Tchernobyl, c'est pichenette, il n'y a rien, etc. Sur ces entrefaites, la juge Berthéla Geffroy convoque la CRAD et lui dit « Mais vous savez que l'article qui est publié, c'est un faux. » Donc, c'est un article qui a été écrit par Pellerin lui-même et qui a été signé par les académiciens des sciences. Vous voyez à quel point de turpitude peut en arriver à l'institution jusqu'au niveau d'académie. Moi, je croyais dans ma candeur un peu paysanne que l'académie, à la fois, c'était la rigueur scientifique, mais quelque part aussi la rigueur morale. Hein, quand on est d'une académie, je croyais que ça avait ce sens-là. Que non, c'est des sacrés filous, des vrais mafieux de la falsification scientifique. Par contre, ceux qui ont craqué, c'est l'Académie des sciences de New York, qui au début de cette année a fait une mise au point extrêmement raide en disant, bon gré mal gré, nous, scientifiques, avec tout l'ensemble des documents que nous analysons, nous estimons Tchernobyl, c'est à peu près 800 000 victimes ou morts. C'est à peu près 3 000 dollars de dégâts économiques. 3 000 milliards de dollars. Ce qui correspond à peu près à ce qu'a dit Gorbatchev quand ça avait couché l'URSS. Enfin voilà. Donc l'Académie des sciences a essayé de New York, de faire fi de la désinformation de la IA auquel est soumise l'OMS. Enfin voilà, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte ? En tout cas, effectivement, nos institutions disent maintenant la probabilité d'accident grave, y compris en France, puisque c'est chez nous qu'il y en a le plus, un réacteur par million d'habitants, personne n'a ça. Et accessoirement à la mer, en permanence, 96 bombes atomiques. 16 missiles qui portent chacun 6 sous-missiles. C'est-à-dire un sous-marin, 16 missiles. Quand un missile est tiré, à une certaine hauteur, vous avez 6 missiles qui partent dans une direction totalement guidée, et chacun sur ses objectifs. Je vous ramène à notre capacité de tuer 32 millions de personnes en moins de 30 minutes. Et nous avons des sous-marins à la mer qui partent sans arrêt à l'île Longue. Je ne sais pas qui vise, enfin bon, vous sentez menacé. J'espère que vous vous sentez tout à fait rassuré avec une capacité d'être.
On est en sécurité ici, rassuré.
Non, mais c'est un certain monde, hein.
Si ça va chez nous, ça va contaminer Tchernobyl, parce que Tchernobyl nous a contaminés.
Oui, mais bon, ceci dit, on peut parler de ce qui va se passer, effectivement, le vieillissement du matos, les énormes répercussions sur la France de l'arrêt du nucléaire allemand, y compris de manquer d'électricité cet hiver, parce que contrairement à ce qu'on nous dit, la France est importatrice d'électricité, non pas exportatrice.
Bon. L'Espagne et de l'Allemagne.
Surtout de l'Allemagne. À cause de notre chauffage électrique, une autre singularité française déduite du nucléaire, dont on ne parle jamais, 70% des appartements qui sont construits depuis 20 ans sont au chauffage électrique. Utiliser l'électricité pour du chauffage, bon, en tant que scientifique, tu sais ce qu'il faut en penser. C'est machin, alors que c'est interdit dans le canton de Genève, brancher un radiateur électrique dans beaucoup de pays européens, c'est un délit. L'électricité étant une chose trop noble pour être dégradée de façon. Voilà, on est dans une folie. Alors, quelquefois, je me pose une question en guide de conclusion. Sommes-nous le plus atomique des grands pays sous-développés ou sommes-nous le plus sous-développé des grands pays atomiques ?
C'est ça.